Nous poursuivons ensemble nos rencontres sur le prophète Élisée et les différents épisodes de sa vie et ce que nous pouvons en retirer pour nous-mêmes. Heureux de nous retrouver si nombreux pour ces rencontres et celles d'aujourd'hui. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3, que je tire le texte qui va faire le sujet de notre méditation, de notre étude. Et je lis donc dans 2 Rois 3, verset 9, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, donc trois rois, partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas ! L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de leur ennemi Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de l'ennemi Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Dans cet épisode de la vie du prophète Élisée, nous découvrons qu'il avait besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui pour annoncer des paroles prophétiques. Nous avons aussi besoin que la main de Dieu soit sur nous, car nous ne pouvons pas parler avec sagesse si nous ne sommes pas touchés par Dieu. Mais l'Esprit de Dieu œuvre comme il le veut. N'est-il pas écrit « le vent souffle où il veut » Et l'Esprit de Dieu opère selon son choix. Élisée ne pouvait pas prophétiser quand il en avait envie. Mais il avait remarqué que l'Esprit de Dieu agissait plus facilement sur lui quand son esprit à lui était en repos et soumis. C'était quand le tumulte de son âme s'était tu qu'il se sentait le mieux préparé pour entendre et communiquer la voix céleste. S'étant assuré de ce fait par l'observation, il se décida d'agir en conséquence. S'il ne pouvait pas créer le vent de l'esprit, il pouvait étendre ses voiles pour le recevoir, et c'est ce qu'il fit. Au moment où cette scène se passe, Élisée avait été très irrité par Joram, le roi d'Israël. En vrai prophète qu'il était, il ne lui avait pas mâché ses mots, et il lui avait fait savoir ce qu'il pensait de lui. Ayant vidé son sac contre Joram d'une façon virulente, il se sentait agité et déprimé, et indigne d'être le porte-parole de Dieu. Il savait que l'Esprit de Dieu ne le saisirait pas dans cet état. Aussi a-t-il dit, « Amenez-moi un joueur de harpe. » Et sous l'influence des sons harmonieux, son esprit s'apaisa, son agitation disparut, et l'Esprit de Dieu parla par lui. Il avait bien raison d'employer un moyen qui s'était déjà révélé efficace quoique, ne l'oublions pas, son seul appui restait non pas le joueur de harpe, mais la main du Seigneur. Élisée n'était d'ailleurs pas le seul prophète à avoir trouvé que la musique pouvait venir à son aide. Le prophète Samuel, s'adressant à Saül, dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, lui dit entre autres, « En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu seras changé en un autre homme. » Mais nous savons que plus tard, Saül dériva dans la désobéissance aux ordres de Dieu, au point qu'un mauvais esprit s'empara de lui. On appela alors David, et je vous lis, Samuel 16, verset 23, David qui prenait sa harpe, jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise, et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Élisée, donc, comme ses prédécesseurs, n'employait un moyen naturel que pour se mettre dans de bonnes dispositions pour recevoir une aide surnaturelle. Que pouvons-nous apprendre de cet incident? Eh bien, pour être dans un état d'esprit qui convient pour faire le travail du Seigneur, Élisée a crié « Amenez-moi un joueur de harpe. » Disons avec lui « Amenez-moi ce qui pourra m'être utile. » Si le musicien ne pouvait pas lui apporter l'inspiration, il pouvait lui apporter le calme, l'équilibre nécessaire pour ôter ce qui était un obstacle à l'œuvre de Dieu et le préparer pour la communion divine. Nous aussi, comme le prophète, nous avons nos obstacles, nos moments où nous ne sommes pas à point pour le travail du maître. Notre esprit est perturbé, la machine est en panne, la canalisation est bouchée, ou pour parler à la façon des marins, la voile est enroulée, le cabestan est grippé, et l'âme est au point mort. L'obstacle d'Élisée était dans les choses environnantes. Il était dans un camp où trois nations mêlaient leurs voix discordantes. C'était un camp peu discipliné, où il n'y avait plus d'eau, et où les hommes assoiffés réclamaient à boire. La confusion et la clameur devaient être grandes. La pensée prophétique ne pouvait guère fleurir dans un tel milieu. Et puis, il y avait surtout là le roi Joram, qui était le fils d'Akab et de Jézabel. Élisée ne pouvait le regarder sans que sa mémoire ne se remplisse de souvenirs atroces et douloureux. Il était le fils de cette orgueilleuse femme de Sidon. Il se souvenait de la vigne de Naboth, arrachée au moyen du sang versé. Il se souvenait de ses paroles. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Aussi, parla-t-il au roi Joram en ces termes, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va consulter les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » Et quoique Joram répondit humblement que c'était la main de Dieu qui avait réuni les trois armées, Élisée ne mit aucune modération pour lui répondre sèchement, « Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi. » On comprend que, s'il était logique qu'il eût de tels sentiments et un tel langage, on sent que ce n'était pas là une bonne préparation pour que le prophète entende la voix de l'Esprit. Les circonstances n'avaient rien d'apaisant. Aussi, dit-il, qu'on m'amène un joueur de harpe. Nous allons essayer d'en faire une application personnelle. Ne vous trouvez-vous pas parfois dans un tel état d'esprit? Vous devez prêcher, ou enseigner des enfants, ou porter un mot d'encouragement à un malade, mais tout vous détraque. le bruit, les ennuis personnels, tout conspire pour vous accabler. Il paraît que des petites choses accablent des grands esprits. Je dois avoir un grand esprit. La vue même de certaines personnes suffit pour faire dérailler un prédicateur. La hauteur du pupitre derrière lequel on parle, l'audience clairsemée, la somnolence d'un auditeur, les chuchotements des femmes qui s'amusent des facéties d'enfants qu'on laisse tout faire, y compris crier et courir dans les allées, l'atmosphère surchauffée, tout cela et bien d'autres choses encore peuvent faire perdre la juste tonalité au prédicateur et le rendre incapable d'entrer dans la bénédiction. Jusque dans les visites à domicile. Que d'irritation quand on ne prend même plus la peine d'éteindre la télévision. Comment pourrais-je oublier cette soirée, parmi d'autres, où de la volière à perruche sortait un tel tintamarre qu'il était impossible de se comprendre sans que les gens, qui m'avaient pourtant invité, ne prennent la peine de faire taire ces bestioles en posant tout simplement un linge sur leur cage. En plus de cela, Élisée faisait face à un terrible combat intérieur entre deux courants de pensée. L'indignation et la pitié s'affrontaient en lui. Sa justice lui faisait sentir qu'il ne pouvait rien avoir à faire avec deux rois idolâtres, mais la pitié lui faisait désirer de sauver l'armée de la soif. En tant que patriote, il était du côté de son peuple, mais en tant que prophète, il était jaloux pour son Dieu. Comment pouvait-il aider un peuple qui appartenait à Dieu par alliance, mais qui avait violé cette alliance? Le prophète était perplexe et son cœur lui faisait mal. Comment pouvons-nous faire l'œuvre de Dieu quand notre esprit est abattu? La joie du Seigneur est notre force, est-il écrit en Néhémie chapitre 8. Et quand nous la perdons, cette joie, nos mains se relâchent. Quand le cœur est déchiré par des conflits intérieurs, comment pouvons-nous passer des paroles de réconfort à ceux qui sont lassés? C'est avec sagesse qu'il n'a pas essayé de braver ses sentiments et de parler au nom du Seigneur, mais qu'il a cherché le moyen par lequel son excitation pouvait être calmée, et nous serons sages si nous l'imitons. Quand nous nous sentons surchargés par des occupations domestiques, comme Marthe dans l'Évangile, nous ferons bien de prendre la place de Marie au pied de Jésus. Si je vais faire le travail de Dieu avec un esprit accablé, je le ferai mal. Peut-être même ferai-je plus de mal que de bien. Je renverserai la coupe de consolation si je suis agité de tremblement. « Amenez-moi un joueur de harpe, dit le prophète, et la main de l'Éternel fut sur lui. » Sur les airs de la mélodie, son esprit s'envola hors du camp tumultueux et loin de la présence abhorrée de Joram. Les accords apaisèrent le vent passionné qui soufflait dans son cœur, et le silence qui succéda lui permit d'entendre la voix du Seigneur. Martin Luther aurait dit « La musique, c'est l'art des prophètes, le seul art qui puisse calmer l'agitation de leur âme. » Parmi les choses qui peuvent nous aider, comme le joueur de harpe aida Élisée, le chant tient une grande place. L'apôtre Paul disait « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, psalmodiant dans votre cœur au Seigneur. « Mais je ne sais pas chanter, dira quelqu'un. » Vous ne devez pas savoir chanter comme Asaph, le Kapellmeister, le maître de chapelle des Hébreux, ou avoir la voix de Pavarotti. Que ceux qui ont des voix éraillées chantent moins fort dans l'assemblée et plus souvent dans leur cœur, là où personne ne pourra se plaindre de leur voix de fossé. Il y a un grand réconfort à chanter de bons cantiques. Il est d'ailleurs significatif qu'après le souper, dans le récit de la Passion, avant d'aller au grand sacrifice, notre Seigneur a chanté un cantique. que de fois ne suis-je pas sorti dans la nuit pour être seul avec le Seigneur, et fredonner dans mon cœur l'un ou l'autre de nos merveilleux cantiques, dont celui-ci en particulier. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie, ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière? Où trouverais-je une telle tendresse? À quel ami confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans la souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi mon sauveur fidèle, qui veux conduire à la paix glorieuse mon âme heureuse. Puis-je encore vous recommander la lecture d'un chapitre de la parole de Dieu? Allez dans votre chambre ou votre bureau, choisissez un chapitre de la Bible et adonnez-vous au travail de la pensée. Si vous êtes perplexe, lisez ce chapitre béni qui commence comme suit. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. C'est dans le psaume 45. Quelques passages semblables, lus paisiblement, auront autant d'effet sur vous que le joueur de harpe sur Élysée. Et si le temps vous presse, eh bien allez voir quel est le texte de la méditation quotidienne du calendrier, ou choisissez quelques-unes de ces précieuses promesses qui vous ont été si douces l'autre jour. Il est remarquable de voir quel effet peut avoir un seul verset de l'Écriture quand il est appliqué à l'âme par le Saint-Esprit. S'il y a de la musique pour l'avare dans le froissement des billets de banque, quelle musique peut égaler ce verset? Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains chapitre 8. Quelle puissance d'apaisement il y a dans une seule ligne des Écritures, si nous voulions nous en emparer et en sucer la moelle jusqu'à ce que nos âmes soient satisfaites. Vous trouverez peut-être que la prière solitaire équivaudra pour vous à appeler un joueur de harpe. Peut-être que comme Ézéchias, vous avez reçu une mauvaise lettre, comme lui l'a reçu d'un certain Rabshaké. Vous avez lu cette lettre, ou écouté cette nouvelle, et vous auriez voulu ne jamais la lire, ou ne jamais la connaître. Vous la jetez dans la corbeille, et puis vous allez la rechercher pour la relire. Il y a dans cette lettre des œufs de basilic de vipère, qui éclosent et qui vous forcent à la relire encore. Il y a un maléfice que vous ne pouvez secouer. Qu'y a-t-il de plus sage à faire qu'aller l'ouvrir devant le Seigneur et lui dire « Ô Seigneur, tu as déjà vu des lettres de ce genre, car ton serviteur Ézéchias t'en a montré une. Sur toutes les peines, sur toutes les tristesses, mettez le baume adoucissant de la prière. Une peine que vous ne pouvez pas oindre de prière est une peine que vous ne devriez pas avoir. Ce doit être une peine de votre propre fabrication. Elle ne peut pas être une épreuve envoyée de Dieu. Dites à Dieu votre affliction, et l'amertume passera, et vous retournerez au travail dispos et calme, car la main de l'Éternel aura été sur vous. » La pensée qui suit s'adresse à ceux qui n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Ils devraient employer tous les moyens pour obtenir ce toucher divin. Il y en a ici ce soir qui ne savent pas s'ils sont vraiment croyants en Christ ou non. Ils espèrent qu'ils sont croyants car ils désirent sincèrement le salut éternel. Mais j'ai peur qu'ils ne le soient pas, car ils ne semblent pas comprendre la signification de l'œuvre parfaite de Christ. Que doivent donc faire ceux qui cherchent diligemment le Seigneur? Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est la réponse qu'a donnée Pierre au centenier Corneille, qui cherchait à coups de bonnes œuvres le salut de son âme, sans toutefois y arriver jamais. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et la réponse qu'a donnée Paul au gardien de prison qui lui demandait ce qu'il fallait faire pour être sauvé. La foi croit au Seigneur Jésus. La foi, c'est la seule chose exigée. Mais quelqu'un répondra peut-être, « Ma foi ne va pas jusque-là. » Mais mes amis, il faut que votre foi aille jusque-là, ou vous périrez. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux. Appelez donc, comme Élisée l'a fait, un joueur de harpe qui pourra vous aider dans votre recherche de la bénédiction. Si vous croyez que vous n'avez pas autant de foi que vous devriez en avoir, employez donc cette foi que vous avez. C'est prodigieux les immenses possibilités qui se trouvent dans une foi de la taille d'un grain de moutarde, et c'est Jésus qui l'a dit. C'est une petite chose, mais semez-la et elle croîtra. Vous n'avez pas assez de foi pour croire que Jésus vous sauvera, mais vous en avez assez pour croire qu'il peut vous sauver. C'est déjà quelque chose. Suivez cette pensée jusqu'à sa conclusion. Si un homme n'a pas assez d'argent pour se payer la nourriture pendant une semaine, qu'il ne meure pas de faim pour autant, qu'il dépense ce qu'il a et qu'il espère que le surplus viendra. N'avez-vous qu'une poussière de foi? Employez-la et elle se multipliera. Si vous voulez sentir la main de Dieu sur vous, eh bien, allez écouter un bon prédicateur, sérieux et vivifiant. Si celui que vous écoutez d'habitude n'a jamais apporté de bénédiction à votre âme, mieux vaut faire 100 kilomètres pour aller écouter un serviteur de Dieu fidèle que d'écouter un homme qui ne vous apporte aucun bien, quoi qu'il prêche près de chez vous. Les gens font des grands déplacements pour trouver un bon docteur. Il n'y a pas si longtemps, ils traversaient l'Atlantique pour aller se faire opérer du cœur en Amérique. Ainsi, quand on désire trouver Christ, on va là où il est le plus honoré et où on parle le mieux de lui. Si vous connaissez un lieu où la rosée du ciel descend, où les âmes se convertissent, eh bien, allez là où la pluie tombe, afin qu'il y en ait quelques gouttes pour vous. Et si d'autres sont bénis, que votre prière jalouse soit, « Oh Dieu, bénis-moi aussi !» Dites-moi, est-ce que Jacob n'a pas dit « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni » Il voulait la bénédiction, et il l'a trouvée. Un autre joueur de harpe peut se trouver dans une bonne littérature chrétienne. Demandez aux chrétiens que vous connaissez quels écrits furent en bénédiction pour leur conversion, et étudiez-les soigneusement. Il n'y a pas de meilleur livre pour sauver une âme que la Bible. Lisez et relisez le livre sans cesse, jusqu'à ce que vous y rencontriez personnellement le Seigneur Jésus. Oh, si vous voulez un joueur de harpe, parce que vous ne savez pas encore ce que croire en lui veut dire, prenez alors le joueur de harpe de la solitude et de la réflexion. Pensez à vos péchés contre votre Dieu, jusqu'à ce que votre cœur se brise, et puis pensez à Christ, à sa nature, son œuvre, son amour, sa miséricorde, et puis pensez au Saint-Esprit, à sa puissance pour renouveler, régénérer, consoler et sanctifier. Pensez à ces choses, et tandis que vous y penserez, il en sera pour vous comme pour Élisée, quand le joueur de harpe jouait la main de Dieu. Sera sur vous. Recherchez la solitude de la réflexion, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas d'espoir pour vous à avoir foi en la réflexion, ou foi en la lecture de la Bible, ou foi à l'écoute de la prédication, ou à vous fier à quelque chose d'autre qu'à Christ. Ce qu'il vous faut, c'est que la main de Jésus soit posée sur vous. Ces quelques joueurs de harpe que je viens de vous mentionner ne sont pas des fins en soi, ce ne sont que des moyens pour que vous touchiez le bord de son vêtement pour être guéri comme le fit la femme de l'Évangile. en troisième et dernier lieu. Nous devrions souvent nous servir de saints joueurs de harpe. Peut-être êtes-vous venu aujourd'hui dans l'assemblée du peuple de Dieu en ne vous sentant pas très à la hauteur. Si cela arrive encore, demandez aux joueurs de harpe du psaume 84 de venir jouer pour vous. Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel! Mon âme désire et même languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Le passereau a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle, où elle a mis ses petits. Tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront sans cesse. Bienheureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand la maison est pleine de troubles, que le cœur est déprimé. Quand les alarmes nous assaillent, que la maladie s'avance, dites, qu'on m'amène le joueur de harpe du psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers, quand ces eaux mugiraient, qu'elles écumeraient et qu'elles se soulèveraient jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée, Dieu la secourra au lever du matin. Les éléments sont-ils déchaînés? Le tonnerre roule-t-il? L'agitation des peuples emplit-elle votre ciel d'un bruit menaçant? Qu'on amène le joueur de harpe du psaume 91, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort, il est mon Dieu, je me confierai en lui. Vous arrive-t-il, mes amis, d'être déprimés? Vous êtes troublés parce que vous semblez avoir plus d'affliction que n'importe qui? Vous voyez prospérer le méchant, tandis que vous êtes ballotté, prêt à périr par la vague de l'adversité? Appelez alors le joueur de harpe du psaume 37, ou si vous voulez, inversez les chiffres, ce qui donnera 73. Vous trouverez bien vite des paroles comme celle-ci que je vous sers, mélangées comme on le ferait d'une macédoine de fruits. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas aient glissé, car j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Ils semblent ne pas être frappés de peine comme les autres. Ils sont railleurs et parlent méchamment d'opprimés. Ils prospèrent dans le monde, ils augmentent leurs richesses. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes, tandis que moi... J'ai été frappé tout le jour et mon châtiment revenait chaque matin. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu, là j'ai compris leur fin. Heureusement, vous n'êtes pas toujours déprimé. Il y a des moments où vous êtes rempli de joie et où vous avez l'ardent désir d'avoir communion avec Jésus. Appelez alors un joueur de harpe, et s'il vous demande « Que jouerai-je » dites-lui « Jouez-moi le cantique des cantiques. » Il se peut que votre oreille accroche alors des accords comme ceux que j'extrais du chapitre 2, comme les lys entre les épines. Quel est mon ami entre les jeunes filles? Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les jeunes hommes. J'ai pris plaisir à son ombre, son fruit est doux à mon palais, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, car je suis malade d'amour. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Et quand viendra le jour où nous devrons mourir, nous dirons encore, « Amenez-moi le joueur de harpe du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Et si vous avez déjà écouté ces joueurs de harpe, le suivant que je veux mentionner, c'est celui de la doctrine chrétienne de la grâce. Quand je suis perplexe et en proie à quelques doutes sur moi-même, ma sanctification et l'assurance du salut, j'aime à repasser en mon cœur un peu de la bonne doctrine calviniste sur la souveraineté de Dieu, et je fais mes délices de la grâce souveraine. La doctrine de l'élection est une musique noble. La prédestination, c'est un alléluia glorieux, car les appels de Dieu sont sans repentance. La grâce abondante, l'amour victorieux, la vérité éternelle, la fidélité invincible, voilà des mélodies bien faites pour charmer le cœur. La vérité de Dieu est une musique digne des anges, et les harpes des rachetés ne résonnent jamais avec autant de noblesse qu'avec la doctrine de la grâce. Et si ces joueurs de harpe ne vous disent encore rien, demandez qu'on vous amène le joueur de harpe de l'expérience. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, dans les jours de tristesse et d'obscurité, et alors vous chanterez « Quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, au lieu de courber la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Et le psaume 136 aussi, où autant de fois qu'il peut y avoir de circonstances dans une vie, il revient tel un leitmotiv, le célèbre refrain, « Car sa miséricorde et sa bonté durent à toujours, car sa miséricorde et sa bonté durent à toujours. » Mais s'il vous faut une autre musique plus prenante, demandez qu'on vous amène le joueur de harpe du calvaire. Au calvaire, il y a une partition musicale en mineur qui a engendré plus de joie sous le ciel que tous les autres. Écoutez le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus abandonné est le réconfort des abandonnés. Jésus criant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» est la consolation des esprits qui ont perdu la lumière de la face de Dieu. Cette note grave et solennelle est capable de changer le plus grand désespoir en délice. Mais si encore et enfin vous voulez un autre hymne, laissez-moi vous recommander le dernier morceau de la croix. Tout est accompli. Toute la musique est là. Condensée dans ces trois mots, vous avez toutes les harmonies de l'éternité et les mélodies de l'infini. Si tant est qu'ils chantent, les anges eux-mêmes, dans leurs plus beaux cantiques, n'ont jamais chanté un tel hymne. Tout est accompli. C'est le grand final du cantique nouveau d'Apocalypse 5. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » ce grand « tout est accompli » veut dire que le péché est effacé, que la réconciliation est totale, que la justification éternelle est introduite, que les âmes croyantes sont sauvées. Et ainsi, jusqu'à ce que le jour pointe et que les ombres fuient, disons comme Élisée le fit autrefois, « Amenez-moi un joueur de harpe, et chantons ce cantique nouveau à la gloire éternelle de celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Amen. »